faut visualiser un truc assez fascinant. Faut s'imaginer une usine d'information qui tourne dans l'obscurité la plus totale.
Ouais, le noir complet.
Exactement. Au beau milieu de la nuit, on a des agents d'intelligence artificielle qui s'allument tout en silence. Ils découpent des rapports géopolitiques avec une précision vraiment chirurgicale. Ils rejettent les rumeurs avec une froideur mathématique.
C'est ça, ils mettent à jour un simple fichier texte et puis ils s'éteignent.
Et le truc, c'est qu'ils ne communiquent jamais entre eux. Il n'y a pas d'interface brillante, il n'y a pas de tableau de bord qui clignote de partout. C'est juste une chaîne de montage invisible et implacable. Donc, bienvenue dans cette nouvelle immersion analytique.
Bonjour à tous.
Les documents qu'on a sur la table aujourd'hui, pour quiconque s'intéresse à l'architecture des systèmes, c'est pas des simples articles d'opinion, hein. On parle de manuels de construction super détaillés, de specs d'ingénierie et même des historiques de terminaux de commande.
Des vrais logs système, quoi.
Ouais. Des logs purs et durs qui documentent la création d'une architecture qui s'appelle Territorium OS, ou qu'ils appellent aussi l'usine éditoriale. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ces plans. Parce que d'habitude, l'industrie déploie l'IA comme une sorte de générateur infini, tu vois.
Ouais, le fameux prompt magique où on demande un texte et la machine pond des kilomètres de paragraphes en boucle.
C'est exactement ça. On favorise le volume au détriment de la précision. Mais là, la thèse centrale des concepteurs, elle prend tout à rebours. Loin des automatisations standards, cette usine, elle est pensée comme un organisme biologique impitoyable.
Elle est super déterministe. En fait, c'est ce rejet frontal des standards de l'industrie qui est vraiment le cœur de ces manuels. Les concepteurs de Territorium OS, ils ont délibérément jeté le modèle de l'application logicielle par la fenêtre.
Pour adopter un truc beaucoup plus organique.
Enfin, organique dans la structure, quoi.
Voilà, ils adoptent carrément le paradigme du métabolisme cellulaire. Parce que faut bien comprendre un truc, le volume d'informations qu'on a aujourd'hui sur la géopolitique, il est juste écrasant.
Ouais, les notes parlent de chaos informationnel, c'est ça? Tout à fait. C'est un vrai chaos. T'as des rapports de 50 pages de think tank qui sont mélangés avec des bruits de couloirs diplomatiques, des blogs ultra-orientés, des dépêches d'agence. Le défi pour eux, c'est pas de générer du contenu avec tout ça. C'est d'y survivre.
Survivre à la toxicité de l'info.
Exactement. Et c'est pour ça que la machine possède un véritable système immunitaire modélisé littéralement sur la biologie moléculaire.
Et ce concept de système immunitaire, c'est fou parce que ça commence dès la première seconde, dès l'ingestion des données. Dans les specs, ils appellent cette première ligne de traitement l'unité 01, ou le spliceosome.
Ouais, un terme très pointu.
Très pointu, ouais. Pour expliquer un peu dans la nature, en biologie cellulaire, le spliceosome, c'est une machinerie qui vient nettoyer l'ARN qui vient juste de se former. Ça coupe et ça vire les parties inutiles pour ne garder que les séquences codantes.
Et là, appliqué au chaos géopolitique, c'est la même chose.
C'est étonnamment similaire. L'unité 01, elle prend un rapport brut, massif, pas du tout structuré, et elle commence à le fragmenter de manière chirurgicale. Le but, c'est d'isoler des exons sémantiques, c'est leur terme.
Des briques de sens.
Voilà, des briques conceptuelles individuelles, et ensuite, on leur colle un identifiant cryptographique unique pour les tracer dans tout le système.
Mais là où c'est intéressant, c'est que cette fragmentation, c'est juste le prologue, en fait. Transformer un magma de texte en petite brique, ça garantit pas du tout que ces briques soient vraies.
Bah non, une fake news bien découpée, ça reste une fake news.
C'est ça. Et c'est là qu'intervient la logique vraiment froide de l'ingénieur avec l'unit 02. Eux, ils l'appellent l'ADN polymérase ou le proofreader, donc le relecteur.
Le videur de boîte de nuit, un peu?
Un peu, ouais, mais version mathématique stricte. Son rôle, c'est pas de dire si c'est bien écrit ou si le thème est pertinent. L'unit 02 fait un audit implacable pour calculer l'index de fidélité documentaire, le fameux IFD.
Ah oui, l'IFD.
Et les specs sont super clairs. Un exon sémantique doit obtenir un score supérieur ou égal à 0,4 pour survivre. Sinon, il rentre pas dans le noyau de connaissances, le fameux kernel.
Faut vraiment s'attarder sur la compo de ce score IFD, parce que ça enlève toute subjectivité au processus. C'est purement basé sur de la crypto et de l'institutionnel. En gros, l'unit 02 vérifie si l'affirmation a une preuve primaire solide.
Genre un identifiant DOI.
Exactement. Un DOI, pour ceux qui sont moins familiers, c'est le Digital Object Identifier. C'est le standard technique pour lier de manière permanente des publications académiques. C'est une empreinte inaltérable. Et le système cherche aussi des domaines gouvernementaux, avec des extensions comme .gov ou .ma.
Ou des métriques actuarielles bien précises, ouais.
Ouais, des stats sourcés, ce sont tous ces trucs-là qui nourrissent l'équation. Sans ces ancrages, bam, le score de la brique s'effondre.
Et les conséquences d'un score sous les 0,4, c'est là qu'on voit l'intransigeance du truc. Dans les terminaux, le terme qui apparaît est glacial. C'est l'apoptose sémantique.
La mort cellulaire.
Voilà. En biologie, une cellule s'autodétruit pour pas infecter le reste de l'organisme. Dans Territorium OS, un bruit de résonance, genre une intuition diplomatique lue sur un blog d'opinion sans aucune source,
ça dégage.
Ça subit exactement la même sentence. C'est détruit ou alors c'est marqué avec un sceau de rejet indélébile. Parce que protéger le kernel contre des mutations délétères, c'est vraiment une question de survie pour eux.
Ouais, alors... Je suis d'accord, le niveau de rigueur hygiéniste est impressionnant. Mais si je me place d'un point de vue purement de stratège, je trouve que ça pose un problème de fond.
Lequel ?
Appliquer un filtre mathématique aussi sévère, ça crée un angle mort gigantesque. C'est comme un globule blanc numérique qui tue une info juste parce qu'elle n'a pas de tampon officiel ou de DOI. Ça risque pas de rendre la machine complètement aveugle ?
C'est le risque, ouais.
Surtout dans le renseignement géopolitique, tu vois. Les signaux faibles, ils sont cruciaux. Et ils arrivent toujours avant les publications officielles. Une rumeur sur un mouvement de troupes ou une fuite sur un traité, à la minute zéro, ça aura jamais un IFD de 0,4. J'ai l'impression que cette usine, elle voit l'intuition précoce comme un virus.
C'est vrai, mais la doctrine de l'usine, elle assume complètement cette friction intellectuelle. C'est écrit noir sur blanc dans les notes. L'intuition sans preuve, c'est traité comme une hallucination systémique.
Ouch, c'est sévère.
Mais c'est logique pour eux. Accepter un signal faible non sourcé juste pour être rapide, c'est laisser entrer un cheval de Troie épistémique. Si une donnée fausse infecte la base, l'IA va s'en servir pour générer des analyses qui auront l'air super vraies.
Ah oui, le cycle de désinformation interne, impossible à purger ensuite.
Exactement. Cela dit, ils ont quand même prévu une soupape de sécurité. L'info rejetée, elle part pas dans un trou noir. T'as l'unit 03, l'annotateur, qui va consigner ce rejet dans un journal très spécifique.
Ah, ça alerte quelqu'un.
Voilà. Le système dit à l'opérateur humain « Eh, j'ai bloqué une mutation potentiellement intéressante là ». Et du coup, la charge de la preuve est inversée. L'étanchéité de la machine reste absolue, et c'est à l'humain d'enquêter, de trouver les sources officielles manquantes et de les injecter manuellement.
Ok, donc la machine force l'humain à redevenir un vrai chercheur, au lieu de juste se reposer sur la complaisance de l'IA. C'est brillant. Mais du coup, avec un niveau d'intransigeance pareil pour l'injection, j'imagine que pour orchestrer tout ça, ils n'utilisent pas des petits outils grand public.
Surtout pas, non.
Dans les sources, on voit un rejet carrément philosophique des plateformes d'automatisation qu'on connaît tous, comme Make.com ou Zapier. Le manuel dit même que ces flux standards sont, je cite, « aveugles à la doctrine ».
Aveugles à la doctrine, c'est vraiment la phrase qui résume leur mépris, enfin leur critique profonde des API cloud modernes.
Ouais, pourquoi ils les détestent autant ?
Parce que les plateformes comme Make, elles sont super pour faire de la tuyauterie pure. Tu attrapes une donnée ici, tu déclenches un webhook là, tu pousses du texte sur un site web. C'est de la logistique super efficace.
Le convoyeur avance.
Voilà. Mais il n'y a aucune capacité d'audit qualitative en cours de route. Et le souci avec les modèles de langage, c'est qu'ils sont instables par nature. T'as un scénario opérationnel dans les logs qui illustre ça parfaitement.
L'histoire de 3h du matin.
C'est ça. Faut s'imaginer, il est 3h du mat'. Un modèle génératif doit rédiger un rapport géopolitique. Mais il subit une dérive, une hallucination. Au lieu de suivre la matrice stylistique de l'usine, une charte ultra stricte qui s'appelle Lamotis Forge.
Qui exige exactement 11 000 caractères, c'est ça ?
11 000 caractères, un ton de procureur incisif, une structure en 3 actes. Et le modèle pète un câble et génère 7 000 caractères avec un ton super familier, ISAP les directives.
Et sur une archi classique basée sur Make.com, c'est la cata en cascade. Parce que la plateforme cloud, elle sait pas lire le texte, elle évalue pas le ton.
Elle s'en fout, elle voit juste qu'un fichier a été créé.
Le tapis roulant continue dans le noir, le texte tout pété est converti, puis pouf, publié aveuglément sur WordPress. Le système te met une petite coche verte, succès, et le lendemain matin, ton organisation se réveille avec une crise de crédibilité à gérer.
C'est l'équivalent de l'usine de voiture qui soude des portes sur un châssis complètement tordu, juste parce que le capteur a vu passer une pièce.
C'est exactement l'analogie. C'est un tapis roulant où la machine n'a aucune représentation mentale du produit fini. Du coup, comment Territorium OS résout cette cécité ?
En introduisant ce qu'ils appellent des « gatekeeping agents ». Des agents de contrôle sanitaire, en gros, ce sont des IA dédiées uniquement à vérifier le travail à chaque intersection.
C'est ça la philosophie anti-make. On retire l'arbitrage qualitatif du cloud. Make est complètement dégradé.
Il devient juste un transporteur lourd à la toute fin. C'est ça, juste pour pousser la donnée une fois qu'elle est mathématiquement validée par les agents locaux. Toute l'orchestration cognitive est rapatriée en local, en mode asynchrone.
Et c'est là que ça devient fascinant techniquement parlant. Si tu refuses d'utiliser les API du cloud pour faire parler ces agents de contrôle entre eux, comment tu fais bosser plusieurs IA ensemble en pleine nuit?
Bah, la réponse dans les logs est presque, enfin, c'est un anachronisme troublant.
Ils ont reculé de 40 ans, quoi. Ils font un passage de relais par fichier texte. La chaîne de montage taylorienne nocturne.
Ouais, le contraste est ouf, mais d'une efficacité redoutable. Le système fait bosser deux entités. D'un côté, t'as Claude Code, qui tourne via une invite de commande, le CLI. De l'autre, t'as Codex, qui fait de la validation mécanique.
Le fait que ça soit en CLI, donc dans ligne de commande pure, ça veut dire zéro fenêtre de chat, pas d'interface lourde, pas de mémoire historique qui vient polluer le contexte.
C'est ce qu'on appelle fonctionner en mode headless, en arrière-plan total, invisible. Et surtout, ces agents ne se parlent jamais en direct. Pas d'appel réseau, rien.
Et leur seul point de contact, c'est ce minuscule fichier local qui s'appelle otis.status.json.
Exactement. Ce fichier JSON, c'est le livre de bord d'un vaisseau fantôme, en gros.
Faut vraiment regarder la mécanique de ce quart de nuit pour capter la puissance du truc. Disons qu'on est au poste A. L'infrastructure locale, avec un simple script de surveillance, regarde ce fichier JSON. Quand le fichier dit que la donnée brute est prête, bam, ça réveille l'agent Claude Code.
Il s'allume avec un contexte tout neuf, tout vierge.
Ouais. Il lit la donnée, il rédige le texte avec son style de procureur, il sauvegarde son texte. Et là, c'est la magie du truc. Il ouvre le fichier outil status. Il modifie sa propre ligne pour dire « poste A completed ». Et il passe la ligne du poste suivant, « poste A ops » sur « ready ».
Et après, il s'éteint complètement.
C'est fou. Il libère la RAM, il disparaît. Fin de l'histoire.
C'est une extinction vitale pour la résilience. Parce que 5 minutes plus tard, le script de surveillance repasse. Il voit que poste A ops est sur ready. Il réveille le deuxième agent, Codex.
Le vérificateur.
Voilà, Codex s'allume. Il crée rien du tout. Son seul boulot, c'est d'inspecter le poste A. Il compte les caractères, il check les balises. Si c'est un pass, il pousse le truc propre dans une base Airtable. Il met à jour le JSON pour la suite et il se coupe.
Et ce cycle réveil, micro-tâche, mise à jour, extinction, ça continue de poste en poste jusqu'au poste B carré qui gère les balises SEO pour WordPress. Mais pour me faire un peu l'avocat du diable, refuser les belles interfaces visuelles modernes pour des terminaux noirs, un petit fichier JSON lu toutes les 5 minutes.
Ça a l'air dogmatique, ouais.
Ça a l'air d'être de la complexification gratuite. Pourquoi faire un truc aussi aride quand tu pourrais juste dessiner des petits flux colorés sur le web?
Parce que cette aridité, c'est de la surdité systémique à l'état pur. Eux, ils appellent ça de la fermentation anaérobie.
Ça fermente mieux dans le noir.
C'est ça. Le premier gros avantage, c'est les coûts. En headless, l'IA charge que le strict minimum. Codex ne reçoit pas le prompt géopolitique de base, juste le texte final et la règle à vérifier. On économise des millions de tokens par rapport à une IA de chat qui doit se souvenir de tout.
Ah oui, c'est énorme. Et il y a aussi l'argument de la compartimentation des pannes, non? Ça répond au cauchemar de make.com.
Complètement. Sur une API classique, si ton serveur WordPress fait une mise à jour la nuit et coupe la connexion, ton automatisation make, elle plante et tu perds le boulot des 10 prochains rapports.
T'es paralysé par l'extérieur.
Avec la chaîne taylorienne de l'usine, cette dépendance est morte. Si le dernier agent n'arrive pas à joindre WordPress, il met juste un statut blocked dans le JSON pour cet article-là, il log l'erreur et il passe au sujet suivant.
Et l'usine continue de tourner.
Ouais, la panne est isolée sur une seule ligne de production. Et puis surtout, l'indépendance structurelle. Les gens de la tech changent leurs API tous les 6 mois. Mais lire et écrire dans un fichier JSON local, ça marche depuis 40 ans et ça marchera toujours.
L'usine est immunisée contre les caprices de la Silicon Valley, en gros.
Exactement.
Et la finalité de tout ça, de ces agents headless ultra surveillés, ça prend tout son sens au lever du soleil. Quand l'opérateur humain arrive avec son café, il ne va pas fouiller dans des terminaux crasseux ou corriger du formatage pété.
Non, il ouvre son Airtable et c'est propre.
Il ouvre un tableau de bord épuré et il voit que des lignes vertes. Que des rapports qui ont survécu à l'IFFD, qui ont été rédigés, audités, comptés pendant la nuit. L'humain garde l'exclusivité de la vraie réflexion stratégique. Est-ce qu'on publie ça ou pas?
Toute cette architecture, en fait, elle prouve un truc hyper contre-intuitif aujourd'hui. Pour maîtriser une IA puissante, faut surtout pas lui donner plus de liberté.
Ouais, la puissance naît de la restriction.
Voilà, en imposant des matrices froides, des scores d'ingestion drastiques, un fractionnement en terminal isolé, c'est la discipline qui transforme un algo imprévisible en outil souverain.
C'est implacable. Dresser des barrières sanitaires rigides, ça génère une sécurité intellectuelle 1000 fois supérieure à la course à la vitesse des outils grand public. Mais l'observation détaillée de ce système soulève quand même une réflexion finale, je trouve, assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent.
Laquelle?
Ben, on a vu que cette usine taylorienne, elle est géniale pour ordonner le chaos, à condition que l'info rentre dans ces fameuses matrices froides préexistantes. On est super bien protégé contre la désinformation courante, mais que se passera-t-il le jour où on fait face à un vrai signe noir géopolitique?
L'imprévu absolu.
Ouais. Un événement tellement nouveau, tellement hors norme, qu'absolument aucune source officielle n'est capable de le valider par un DOI ou un communiqué dans l'instant. Face à cette anomalie absolue, est-ce que ce mécanisme de défense mathématique ne va pas devenir sa propre faille?
Il va bloquer l'info, mécaniquement.
Exactement. On peut se demander si cette merveilleuse apoptose sémantique qui tue tout ce qui n'est pas certifié ne finira pas par détruire le signal précurseur même qui aurait pu sauver tout le système. C'est la question complexe de savoir à quel moment exact la perfection de l'ordre devient le berceau de l'aveuglement. Sur ça, merci de nous avoir suivis dans cette plongée et à la prochaine.